Voici notre rencontre avec Raphaël, chanteur du groupe We Hate You Please Die. Bonjour Raphaël.
Salut Rémi.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous vous êtes rencontré avec les membres de We Hate You Please Die?
À la base, j'ai rencontré la bassiste Chloé il y a une dizaine d'années. On était à une soirée et en fait, elle s'était mise à chanter à côté de moi. Et moi, à ce moment-là, ça faisait un moment que j'avais en tête de vouloir faire un groupe de musique. Donc, je n'avais pas encore défini le style à ce moment-là, qui allait devenir le garage punk qui est We Hate You Please Die maintenant. Du coup, ça a un peu duré dans la longueur. On s'est vraiment essayé, il y a pas mal de choses, mais sans faire vraiment à fond. Et un jour, j'ai commencé à faire des maquettes sur arrêter un peu un style qui allait devenir un peu après la marque de fabrique du groupe, entre guillemets. Qui était vraiment un garage punk, un peu débridé, où ça gueule, et en même temps, ça laisse quand même une place à la mélodie. Et bon, en fait, je traînais un peu avec mes trois maquettes, quand j'ai déménagé, il y avait une maison de libre en face de chez moi, et c'est Joseph qui est venu emménager, donc le guitariste, deux semaines après. Et un jour, j'ai entendu de la musique par ma fenêtre, et je me disais, waouh, qui c'est qui écoute ça, c'est cool. Et en fait, c'était pas quelqu'un qui écoutait de la musique, c'était Joseph qui jouait de la guitare. Du coup, je suis allé le voir, je lui ai fait écoute, tu veux venir prendre un petit café. Et je lui ai fait écouter les maquettes, et il m'a dit, je lui ai demandé si vous voulez dans le groupe, il m'a dit ok. Et après, il nous a présenté Mathilde à la batterie, avec qui il avait fait une répète d'un groupe qui n'a jamais éclos. Et du coup, en fait, le line-up a commencé comme ça il y a 3 ans et demi à peu près, et il a pas bougé.
Comment est-ce que tu décris votre groupe en 3 mots?
Féroce, sensible, mélancolique, je dirais. Non, mélancolique et fun sur la même ligne en fait. On essaie aussi de jouer un peu les deux extrêmes.
Très bien. Revenons du coup un petit peu 3 ans en arrière. Vous avez sorti votre premier album qui s'appelle Kids Are Lo-Fi. Est-ce que tu peux nous parler de sa création, s'il te plaît?
Il a été assez vite, en fait, cet album. On devait avoir 6 mois ou 7 mois de groupe en commun quand on s'est décidé de se lancer dans cette histoire. On nous a tous dit, mais faites un EP avant, c'est trop hard de sortir un album dès le départ. Faut croire que non. En fait, on avait vraiment pas envie de scinder les chansons, on trouvait que tout avait... que ça avait un sens de le faire, en fait, et que l'adapter en format... qui aurait pu, mais bon, là, il y avait vraiment 10 chansons à défendre. Donc, on est parti sur un album. On s'est mis à la recherche, on l'a enregistré donc à Rouen avec des amis à nous. Et après, on est parti à la découverte des corps de métier qui entourent le monde de la musique, à savoir chercher des labels, voir comment en fait toute une chaîne de production marche. Donc, le label, on a un peu galéré parce que, comme on était un groupe tout récent, personne n'était vraiment intéressé. Enfin, tant que par là, personne ne nous a jamais vraiment répondu. Donc du coup, on s'est dit, ce serait con de sortir sans label. On pourrait même juste pour l'occasion créer un label, quoi. Donc on a créé notre label qui a un trésor d'imagination comme nom, c'est Kids Are Lo-Fi plus Records. Et c'est devenu après notre label qui nous sert maintenant pour sortir d'autres choses que nous. Mais du coup, on l'a sorti en octobre 2018 et c'est chouette. On a eu des bons retours. Ça nous a donné un peu confiance en nous pour le faire et continuer à en faire surtout. Ça a été un vrai coup de pouce, les bons retours au final.
Qu'est-ce qui rend cet album spécial? Qu'est-ce qu'il a changé pour vous, on va dire?
Pour nous, tu veux dire individuellement ou en tant que groupe?
Les deux.
Je pense que déjà, on n'a pas tous un énorme passé dans la musique, voire quasiment inexistant. Je pense que déjà, on était assez contents, c'est un truc trop con, mais tenir un vinyle de ton groupe où tu as participé en fait, dans tes mains, je crois que c'était un truc assez cool. En fait, tu vois, c'est temps de dire, ça y est, ça s'est concrétisé. En plus, c'est même pas que juste des CD, c'est carrément un vinyle. Enfin, il y a vraiment un côté aussi, peut-être, relation à l'objet. un peu ce que ça évoque aussi, un vinyle qui nous a, ça nous a fait déjà beaucoup beaucoup plaisir. Ça nous a permis aussi d'avoir des choses à vendre au merch, autres que des slips et des chaussettes, qui étaient notre premier merch qu'on avait fait à la base quand on avait commencé le groupe. Donc on a quand même financé une partie de l'album en vendant des slips, ça faut le savoir. Ce qui ça nous a apporté aussi, c'est qu'on a pu on a pu se diffuser beaucoup plus. On a pu envoyer à droite à gauche, à des tourneurs, ça a été et surtout on avait comme tu disais tout à l'heure, d'avoir des chouettes retours et tout quand t'as pas hyper confiance en toi, que c'est un peu ton premier, d'avoir des gens qui disent de tout âge en plus, ça c'était vraiment chouette, qui trouvaient ça cool et frais, ça a boosté et tout, ça a boosté l'envie d'en faire plus, de mettre encore les bouchées doubles sur les concerts, de se lâcher à fond, quoi.
Vous avez beaucoup tourné pour promouvoir cet album. Est-ce la raison de son succès selon toi ?
Alors l'album, je peux définir le mot succès. Je sais pas si on reste quand même un peu un groupe en développement, je dirais. Et est-ce que ça fait un bon complément ? Enfin, je pense que l'album et le live sont deux choses assez différentes en fait. Bon, c'est un peu tard de dire ça, mais je pense qu'on est un peu plus un groupe de live que de studio. Enfin, c'est là où je pense qu'on peut vraiment rentrer dans la frénésie qu'on aime et ces choses qu'on recherche, qui va parfois un peu au-delà de la musique. Je pense qu'il y a une façon un peu de se libérer aussi du quotidien. Et je pense que c'est vraiment deux choses distinctes. Attends, j'ai même perdu le fil de la question.
C'était pour savoir si... le live, en gros, avait apporté, on va dire, une plus grosse fanbase autour de cet album que si vous l'aviez juste sorti comme ça.
Bah, je sais que les lives ont plus encore que l'album des retours vraiment chouettes de la part des gens. Et qui, dans le sens où il n'y a pas un seul concert, je pense, où on l'a pas fait comme si c'était... on s'est toujours dit, putain, ça se trouve, c'est le dernier. On a toujours voulu... essayer de pousser un peu l'idée de se lâcher complètement et surtout donner envie aux gens de se lâcher. Ça a eu des bons... Enfin, je pense que les gens préfèrent même peut-être en concert encore parce que il y a une dimension peut-être participative aussi où on n'hésite pas à se mélanger, où en fait tout le monde est sur la même échelle en fait, de la sueur, de la danse et des gros décibels.
Maintenant, on va parler du coup de votre EP qui est sorti en 2020, qui s'appelle Waiting Room.
C'est ça.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce prénom ?
Alors, Waiting Room, il y avait plusieurs choses. En fait, il est multi... On trouvait que ça faisait un... Bon, déjà, c'est un hommage à une chanson de Fugazi qu'on adore, qui s'appelle donc Waiting Room. On trouvait que c'était marrant parce que c'était pas prévu qu'on sorte un EP. Ça a été fait avec des sessions d'enregistrement. Enfin, on a repris un petit single qu'on avait sorti en one shot le jour de Noël 2019, je crois. Et on s'est dit, il nous reste des chutes, on pourrait ressortir ce single, mais en EP. Et donc, Waiting Room, ça faisait un peu, on était confinés, donc c'était l'espace d'attente avant de se retrouver. On laisse pas un désert, c'est un peu le désert culturel, et c'était une façon de dire, non, on va quand même sortir des trucs, même si on peut pas le défendre. Et ça avait aussi une dimension, Waiting Room, c'est qu'on passe un peu sa vie dans une salle d'attente à attendre d'aller bien. Du coup, on trouvait que le nom se retrouvait sur plein de points dans sa pertinence.
Vous allez sortir un prochain album en juin qui s'appelle Can't Wait to Be Fine. Mm-hmm. Comment est-ce que le Covid, la crise du Covid-19 vous a, on va dire, influencé lors de cette création ?
Bizarrement en fait, ou alors ça va être hyper inconscient, mais ça nous a pas trop influencé, je pense. Enfin, le titre pourrait laisser penser un peu l'inverse, mais en fait on l'avait déjà, ça fait presque 2 ans qu'on l'avait déjà prévu. Donc c'est vrai que ça fait vachement écho avec la situation actuelle, mais c'est vrai que pour nous, au final, on est assez chanceux parce qu'au final, on s'est retrouvé entre la fin d'exploitation du premier album. Après, il y a eu le confinement, du coup, ça nous a laissé le temps de l'enregistrer, de le peaufiner. On est à peu près sur un calendrier qu'on avait prévu. Donc, au final, c'est vrai que ça n'a pas tant impacté que ça. Ou peut-être sur certains trucs de mélancolie qu'il peut y avoir, mais c'est vrai qu'au final, tout ce qui peut parler d'isolement et de sensation d'en avoir marre d'attendre pour être bien, c'est un truc qu'on voulait avec une dimension un peu plus universelle que juste le Covid, au final, je pense. Parce que le seul moment où on en parle un peu dans... Si à un moment, il y a une chanson qui s'appelle Coca-Cola, parce que... parle un peu de l'effondrement et on fait un peu un listing de tout ce qui allait pas, ce qui n'est pas allé pendant 3 ans ou que tout s'accélère, à un moment on parle vite fait, on dit juste Corona en Australie, enfin les incendies d'Australie et le fait, nous on a eu une explosion il y a 2 ans à Rouen qui s'appelait Lubrizol, c'est un gros site qui a brûlé en fait, pendant longtemps on n'a pas su ce qui s'était passé, est-ce que c'était toxique ou pas. Nous fait un peu allusion à ça en fait. Et en ces moments-là, en fait, nous on n'a pas pu parler de Corona, c'est dans cette chanson quand on liste un peu tout ce qui s'est pété la gueule pendant 2 ans.
J'aimerais terminer avec des questions un peu plus cool, si ça te dérange pas.
Je te suis.
Quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez du live et, à contrario, le pire ?
Meilleurs souvenirs live, ils sont assez. On en discute, on nous a demandé déjà plusieurs fois, je crois qu'on est assez scindés. Il y en a qui ont été très marqués par le concert qu'on a fait à Rock en Seine, parce que c'est la première fois, je pense, qu'on voyait autant de monde. Et que c'est, en fait, c'est hyper impressionnant. Enfin, surtout quand les gens commencent à applaudir. Enfin, on sent presque les vibrations des gens quand ils commencent à applaudir. Et c'était tellement massif et on avait tellement le syndrome de l'imposteur, genre, qu'est-ce qu'on fait là? Et ça, je sais que ça a beaucoup marqué certains du groupe. Et moi, je pense que c'est un des derniers concerts qu'on a fait avant le Covid. C'était notre date à la Boule Noire à Paris, où il y avait tous les copains et un peu tous les gens qu'on avait pu rencontrer ces dernières années. On n'avait même pas justement pu croiser à Rock'n'Roll. Enfin, tout le monde était là. Et ça donnait une ambiance surélectrique où ça volait dans tous les sens. J'ai beaucoup aimé cette date, moi, personnellement, à la Boule Noire. Enfin, c'était vraiment chaleureux. C'était bourrin, mais chaleureux. Alors, j'ai plus le nom du bar, mais pareil, en fait, c'est le moment où on a même fait slammer notre tourneur, tu vois. Du coup, ça... Et en pire concert, il est arrivé une date un jour où... Enfin, c'était... je sais plus dire, je crois que c'était en Bretagne, mais en général, en Bretagne, c'est toujours le feu. C'était pas en Bretagne, je crois que c'était près de Niort. Et sur le papier, tout avait l'air bien, mais en fait, il y avait une sorte de grande salle restaurant, enfin, c'était une sorte de grande salle bar restaurant éclairée. Et en fait, les gens, ils sont restés à je sais pas combien de mètres de la scène. Et en vrai, c'est hyper bizarre parce que t'as l'impression que soit tout le monde s'en fout, ou soit on a l'impression qu'on est en train de faire nos balances depuis 45 minutes parce que c'est vrai que les gens, ils ont pas bougé et tout. Et on a fait, c'est dommage, ça a pas pris. C'est le jeu, hein. Mais c'est vrai que quand tu rentres sur scène, t'as toujours. D'un côté ton énorme track et d'un autre côté ce pari un peu non avoué qui est de réussir à faire bouger les gens ou quelqu'un qui tape un pied et tout, mais là c'est vrai que c'était très piqué, les gens étaient très très figés et on s'est dit c'est comme ça, c'est pas que c'est un mauvais souvenir tous les concerts mais non. Et il y avait aussi une fois où on a eu un énorme souci de matos et tout à l'arsener tout le temps et les gens se barraient de la salle parfois au fur et à mesure parce qu'on n'arrivait pas à... Enfin, ça merdait à fond avec la sono, tout le monde était en panique et même nous on s'entendait plus, enfin, on s'est retrouvé, même la Mathilde de la batterie s'est retrouvée avec un gros Larsen qui lui a bouché l'oreille la moitié du concert. On était en PLS total. Je dirais que c'est ces deux-là, c'est juste c'est des conditions, mais j'ai envie de dire ça fait partie aussi de la magie du live entre guillemets.
Si vous pouviez faire la BO de n'importe quel film, vous choisiriez lequel ?
La BO d'un film... c'est une bonne question. Je pourrais te donner dans quelle filmographie de quel réalisateur je kifferais. Alors un film en particulier, ah, je pense peut-être un film de Robert Smith. Enfin, je sais pas si tu vois le film Clerks. En fait, c'est un film, alors je sais plus, je crois que c'est dans les années 90, où en fait c'est juste la vie de deux marchands de supérettes. C'est un film, mais genre c'est super drôle avec une BO hyper cool. C'est deux marchands qui tiennent une supérette, qui vivent leur vie hyper banale, sauf que c'est vraiment un peu des branquignoles, et donc ils se retrouvent dans des conversations complètement débiles, genre. Ouais, t'imagines, sur l'étoile noire, on dit qu'ils ont sauvé la galaxie, mais ils en avaient rien à foutre de la faire exploser, l'étoile noire. Tu penses à tous les sous-traitants qui étaient en train de la construire, tous les petits ouvriers et tout, ils ont tout fait péter comme ça. C'est que ce genre de discussion claire. Et donc le réalisateur, c'est Kevin Smith, pas Robert Smith, j'étais sûr. Et Clerks me ferait bien délirer comme film. Mais sinon, un film de Edgar Wright, genre Hot Fuzz ou Shaun of the Dead, je pense que j'aurais bien aimé aussi. Et en même temps, il calque tellement bien, le réalisateur, il calque tellement bien ce moment de zik avec, c'est genre Baby Driver, je crois, où il a carrément calé avec la musique les dérapages de la voiture ou les accélérations, tout était en rythme. Enfin, il y a un vrai sens de la musicalité, c'est trop bien, je trouve, ce qu'il fait. Mais ouais, je dirais peut-être ce film comme ça.
Les trois albums que tu emmènerais sur une île déserte?
Bon, c'est en supposant qu'il y a de quoi les lire, hein, parce que sinon, c'est pas utile. Les trois albums que j'emmènerai, je pense que j'emmènerai un album de System of a Down. Bon, je dirais peut-être Toxicity. The toxicity of our city, of our city. Un album des Hills, Beautiful Freaks. Et un album d'MGMT, tiens, Auricular Spectacular. This is a call to arms to live and love and sleep together. Histoire d'avoir une bonne variété.
C'était notre rencontre avec Raphaël, chanteur du groupe We Hate You, Please Die, et tout de suite vous allez écouter leur titre God the Manchu.